Dimanche, 22-23h, sur Radio Canu, c'est La Causerie, et on revient juste après un peu de musique.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Vous êtes bien toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. On va faire des petites présentations. Avant de faire les présentations, je vais vous donner les infos pour contacter La Causerie. Donc, La Causerie, c'est toujours par mail à lacauseriecanu@gmail.com. Et tout ce qui est autour des infos, quand on a des invités, ou pour retrouver les podcast, comme on dit. C'est sur le blog que ça se passe. C'est à l'adresse suivante, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà, et ce soir donc, alors, l'équipe de La Causerie, il y a Fabien.
Salut.
Il y a Clara la technique.
Salut.
Et nous
et Jean-Yves.
Bonsoir.
Bah oui.
Oui,
tu
merci.
Tu ne vas pas t'auto-présenter.
Non, ça me faisait un peu bizarre, c'est pour ça, je me suis abstenu. Et ce soir, on reçoit trois individus qui, à eux, pas seuls, ils composent avec d'autres un collectif, une association, autour d'une revue qui s'appelle donc...
Question de classe.
Voilà.
Et vous n'avez pas prévenu qu'il allait vous piéger comme
c'est,
ça,
ah ouais, c'est un peu ma technique à moi, ça. Je balance. Alors, je te laisse prendre.
Oui, alors, donc, qui êtes-vous donc autour de cette table? Parce que vous êtes trois, mais vous avez sûrement des prénoms.
Alors, moi, c'est Samuel.
Frédéric.
Et Alexandra.
Et donc, vous êtes tous membres de Questions de classe. Alors, avant qu'on attaque le gros, en expliquant clairement ce qu'est Questions de classe, on va déjà un peu parler de vous. Qui êtes-vous en dehors de ces prénoms? Que faites-vous?
Alors, je commence. Moi, je suis enseignant dans le secondaire en histoire géo et participant donc au collectif Questions de classe.
Donc moi, je suis prof des écoles à Lyon, dans le premier et dans le cinquième essentiellement, et je fais partie de Questions de classe en dehors d'engagements syndicaux qui vont avec.
Et donc, moi, je suis prof en lycée, j'enseigne les sciences économiques et sociales, et jusqu'à l'année dernière, j'étais dans un lycée traditionnel, et maintenant, je suis intégrée à l'équipe d'un micro-lycée à Paris, donc qui est un lycée pour les élèves en décrochage scolaire. Et puis, bien sûr, voilà, je fais aussi partie du collectif Questions de classe.
Ah ben voilà, ils l'ont dit au moins trois fois chacun, Questions de classe, Questions de classe, Questions de classe. Mais alors, Questions de classe, c'est quoi donc? Qui c'est qui veut s'y coller pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est?
Allez, je prends. Alors, question de classe, c'est plein de choses, donc je vais faire court. Vous avez autre chose à penser que d'écouter notre pub. Donc, c'est une revue papier qui est éditée par le collectif, par des gens extérieurs aussi, qui parle d'éducation, qui parle de lutte des classes, qui parle de lutte sociale au sens très large, de pédagogie alternative, et de tout un tas d'autres sujets, notamment autour des questions de genre, des questions de race, des dominations en général. C'est aussi, en plus de la revue papier, un site internet qu'on peut retrouver à questionsdeclasse.org, avec des S à question et à classe.
Et pas à org.
Et à org. Alors, si, essayez, ça peut être drôle.
Non,
je t'excuse pas. Et ça sert de... Enfin, on le pense comme une agence de presse alternative sur ces sujets-là pour centraliser des initiatives, des collectifs, des syndicats qui travaillent sur ces questions-là et qui permet aux gens et aux gens intéressés par toutes ces thématiques de retrouver de l'info plus facilement que sur un blog obscur, sur des choses comme ça. Et c'est une troisième chose, en plus du site web et de la revue, c'est une collection de bouquins chez Libertalia sur des thématiques encore une fois proches, mais sous format bouquin, on essaie de les faire pas chers et accessibles et d'approfondir un peu plus les sujets en 150 ou 200 pages.
Et c'est encore une chose aussi, c'est l'organisation de stages syndicaux sur temps de travail pour se former sur ces thématiques des pédagogies alternatives émancipatrices et également l'organisation de journées débats autour de ces thématiques-là. Donc voilà, et ça c'est important pour nous aussi que ce soit aussi des moments de rencontre et de débats et voilà, ça ne passe pas effectivement que par le papier. Voilà, c'est plusieurs canaux d'échange et de diffusion, voilà.
Tu veux pas poser la question suivante, Jean-Luc ?
Non, là, en fait, c'est parce que je vois tous les livres là. Alors, j'avais envie de dire, est-ce que vous pouvez peut-être justement donner 2-3 noms de bouquins qui sont dans la collection de Libertalia ? Ça peut être pour donner un peu justement ce qu'on peut trouver dans cette collection-là.
Alors, dans cette collection-là, il y a 8 livres qui sont sortis. Donc, j'en ai 4 devant moi. Donc, alors, dans ces 4 livres, il y a donc « Pédagogie et révolution » de Grégory Chamba. Donc, il y a un texte sur les mouvements pédagogiques et les liens avec la politique et un combat donc pour une autre société dans la pédagogie. Il y a « Trop classe » qui est un livre de Véronique Decker, qui est, en fait, c'est des chroniques d'une directrice d'école dans le 93. Et donc, qui, une directrice d'école engagée dans la pédagogie freinée et qui a, si vous voulez, le mérite pour, les médias diffusent une vision catastrophiste du 93. Mmh. Et qui, quelque part, bon, c'est vrai que c'est un département pauvre et elle ne le cache pas, mais voilà, il y a des gens qui y habitent, qui ont une vie, et là, on a une vision complètement décalée du 93, de ces problèmes qui ne sont pas cachés, mais qui ne sont pas des, voilà, qui ne sont pas pour faire peur au beau quartier, si vous voulez, mais plutôt un vécu, hein. Donc le dernier livre de Grégory Chamba, L'école des réacs publicains, qui est un livre qui dénonce l'offensive réactionnaire sur l'école actuelle, qui est très forte et qui est présentée comme, si vous voulez, aussi une voie de pénétration des idées du Front National par biais de questions pédagogiques, de questions sur les contenus scolaires, comme ça, de créer des nouveaux liens et de créer une nébuleuse de différents réacs, de différents côtés qui se rapprochent et qui emploient donc sur les mêmes thèmes. Et le dernier sorti, il est tout neuf, il n'est même pas déballé ici.
Il n'est pas encore sorti en réalité.
Ah, c'est pour ça.
Ouais, vous l'avez en avant-première.
Une exclusivité pour la cause.
Voilà, c'est le maître insurgé. C'est une sélection de textes de Célestin Freiné. De Célestin Freiné, donc, qui est connu assez généralement pour la pédagogie Freiné, mais qui est aussi un militant politique. Un militant politique communiste très engagé et qui a justement toujours cherché à faire le lien entre son combat pédagogique et son combat politique. Et là, les textes qui ont été choisis, c'est justement des textes sur ce lien, quoi, sur le fait que la pédagogie, l'éducation, c'est politique Et voilà, et c'est des textes qui montrent son combat, des textes parus donc entre 1920 et 1939.
Voilà. Ok, bah nickel, ça donne déjà un aperçu. Et alors, moi j'ai une autre question, c'est que c'est pas que question de classe, il n'y a pas aussi notre école, il n'y a pas un lien entre notre école qui avant était un autre collectif et qu'aujourd'hui c'est un peu agrandi, et que est-ce que question de classe a la continuité de ça?
Est-ce que c'est mieux?
Alors je répondrai pas à la dernière question. Et donc oui, notre école, effectivement, c'était la revue de la CNT, Fédération des Travailleurs de l'Éducation, qui avait été créée en 2002, il me semble, notre école. Et puis
Oui, oui, c'est ça, c'est 2002. On a vérifié aujourd'hui.
Voilà. Donc elle avait été créée effectivement par des militants de la CNT. Petit à petit, au cours de sa vie, certains militants du collectif d'animation de la revue n'étaient plus à la CNT, mais étaient toujours dans le collectif d'animation de la revue. Donc en fait, cette revue a évolué, s'est ouverte aussi à des gens qui n'étaient pas forcément dans la CNT, et puis a participé à des stages justement de formation syndicale avec d'autres organisations. Et c'est en 2014, à l'issue d'un de ces stages-là, qui avait pour thématique subvertir la pédagogie, qu'un numéro donc collectif est sorti avec donc un collectif d'animation élargi, et donc avec des militants syndiqués, non syndiqués, des militants issus de groupes pédagogiques, des enseignants, des parents d'élèves aussi. Donc voilà, c'est en fait la revue Question de classe Notre École, c'est la continuité de la revue Notre École, mais effectivement dans une dynamique qui s'est élargie. Et donc la CNT, la revue s'est autonomisée de la CNT et donc est aujourd'hui animée en fait par l'association Question de classe. Et donc voilà, mais on est resté copains aussi avec la CNT qui elle publie maintenant la revue La Mauvaise Herbe. Mmh. Donc voilà.
Oui, oui, c'est ce que je voulais dire.
Ça va, j'ai bon.
C'est bon. Oui, oui, non, j'ai seulement signalé que la séparation s'est faite en de très bons termes et pas du tout, et pas sur des bases idéologiques. Non, c'est pas un combat, on n'était plus d'accord, c'est vrai que le fait que ce soit une revue CNT n'avait plus énormément de sens à partir du moment où les membres de la CNT étaient devenus très minoritaires au sein du collectif.
C'est logique, quoi.
Voilà. L'idée, c'est pas du tout de souligner une guerre ou autre, mais justement, je trouvais que c'était intéressant parce que on peut des fois connaître justement notre école, et que là, voilà, je trouvais que c'était utile quand même de donner cette continuité là, que quand on n'est pas dans le milieu militant, on n'a pas forcément toutes ces infos. Et je trouve que c'est intéressant quand même que, quand on n'y est pas, on peut quand même le savoir.
D'ailleurs, on a gardé le double titre nos journaux. On voit toujours notre école.
Est-ce que vous avez gardé la logique qui prévalait, c'est-à-dire de mettre en ligne gratuitement tout ce qui est dans la revue?
Oui.
Merci pour cette réponse. Voilà. C'était bien.
Pour faire plus long, la logique n'est pas de payer notre futur jacuzzi, ni nos voyages à l'autre bout du monde dans des hôtels 4 étoiles. C'est vraiment de diffuser des idées, parce qu'il y a une bataille idéologique importante qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça qu'on garde des prix le plus bas possible, qu'il y a des tarifs pour les gens qui n'ont pas d'argent, et qu'on essaie de faire en sorte que ça soit accessible. D'où le site internet qui reprend régulièrement, après la parution, les textes qui sont dans la revue. Ceci étant, lire sur papier, lire sur écran, c'est notre travail, on sait que c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on tient vraiment à la revue, qu'il y a un gros effort qui est fait, notamment sur la mise en page et les illustrations, pour que ça soit agréable à lire, agréable à reprendre. Et parce que malheureusement, nos idées n'avanceront pas aussi vite qu'on voudrait, ça vieillit pas trop mal. On peut relire les derniers numéros sur les questions de genre, par exemple, et c'est encore tout à fait utile, parce que la révolution n'étant pas encore pour demain, on va devoir continuer à bosser.
Et en plus, en fait, finalement aussi, l'idée, c'est que le site soit parfois un prolongement de la revue. Et donc, il y a certains articles de la revue qu'on va trouver en version longue sur le site, puisque effectivement, dans une revue, nos articles, ils font 2 pages, voire 3 pages. Mais des fois, il y a beaucoup plus de choses à dire, et on va trouver des compléments sur le site. Donc, on retrouve effectivement librement quand même le contenu gratuitement aussi, quoi.
Eh ben, on revient. On va faire une petite pause musicale, histoire de souffler un peu, et on revient après pour continuer à parler de la revue et de ce qu'il y a dedans maintenant.
seven summits and I swam the seven seas. But the road I must travel, its end I cannot see. Well, I fought in the jungles and I fought in the streets. But the road I must travel, its end I cannot see. But once I had a reason, don't know what it could be. And the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I want to be free. But the road I must travel, its end I cannot see. Empty desert and was burned in the heat. But the road I must travel, its end I cannot see. Well, I crossed the frozen wasteland, in the bitter cold did freeze. And the road I must travel, its end I cannot see. And I will knock on every door, for I do not have a key. And the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I wanna be free. But the road I must travel, its end I cannot see. Soho, couldn't guess his age. I found his empty journal, I filled up every page. I called up my state senator, they said he wasn't there. The secretary took my name, and man, she sounded scared. So I counted my misfortunes, I added up the blame. I picked through all the garbage, I checked off all the names. I read in the newspaper, they questioned all my friends. They hoped that they could find my ass before I struck again. So I sang to myself that I wanna be free. But the road I must travel, its end I cannot see. And so when thirsty I will drink, and when hungry I will steal. But the road I must travel, its end I cannot see. Tonight I walk in anger with worn shoes on my feet. And the road I must travel, its end I cannot see. And I will sing to myself that I'm gonna be free. But the road I must travel, yeah, its end I cannot see. But it's too dark now to read.
Toujours à l'écoute de Radio Canu au 102.2 sur Lyon et sa région, et sinon sur radiocanu.org, hein, toujours. Et on est toujours dans la causerie, comme tous les dimanches, et on vient de s'écouter. Bon, personne ne veut le faire, alors je vais le faire. The Night Watchman, avec le titre The Road I Must Travel. Et on a commencé avec, vous l'aurez reconnu quand même, c'est les Pink Floyd, Another Brick in the Wall. C'était la part 2. Non, c'est part 2. Ah, t'as passé la part 1. On réglera ça après, hors micro. Pardon. Et donc ce soir, on reçoit toujours des membres du collectif, de l'association Question de Classe. Et donc Fab, je te laisse continuer.
Bah ça tombe bien, tu parles de collectif et le gel numéro 4 devant les yeux. Là, ça fait France Culture, vous voyez. donc du coup, bah, le numéro 4 qui vient de sortir, c'est Collectif Offensif Créatif, si je lis bien le titre. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ces trois mots dans ce numéro? Pas tous à la fois, mais au moins un quand même. Ou une.
Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, je suis très embêté parce que je n'ai pas tout lu, parce qu'il n'est pas encore arrivé dans nos boîtes aux lettres. Mais on a fait la correction des épreuves, donc je vais vous faire un petit topo très vite. À question de classe, et notre école, on tient beaucoup à cette dimension collective, à la fois de la construction d'alternatives pédagogiques et la dimension collective des luttes sociales. À un moment donné, tout seul, on ne va pas arriver bien loin et on va se faire du mal au passage. Et on s'est dit, dans la foulée du mouvement social du printemps contre la loi travail, que c'était pas inintéressant d'en remettre une couche, notamment chez les profs et chez les gens qui tournent autour de l'école, parce qu'on a, on va dire ça gentiment, eu un petit peu de mal à mobiliser dans l'éducation. Et du coup, on en a profité pour retravailler le sujet, donner de la voix à des gens qu'on n'avait pas forcément d'habitude, et de voir comment on articule ces deux choses-là. Donc il y a plusieurs choses, il y a des rubriques habituelles sur la littérature jeunesse, sur des bouquins qui nous semblent intéressants à signaler aux lecteurs et aux lectrices, et pas mal de choses autour de pratiques de classe, sur comment travailler la coopération entre élèves par exemple, qui sont des choses qui sont connues, qui sont déjà pas mal explicitées dans la littérature pédagogique, mais qui gagnent à être connues aussi en dehors de ces cercles-là, et qui sont jamais achevées de toute manière. Il faudra toujours continuer parce que les élèves changent, le monde change. Il y a des collègues qui partent en traite, des nouveaux qui arrivent et qui ne sont pas au courant, et il y a peu de chances qu'on leur apprenne ça à l'ESPE. L'ESPE, c'est l'école des profs, pour ceux qui ne maîtrisent pas. Donc il y a un petit peu tout ça dedans, avec, comme à chaque fois, mais sur celui-là, c'est encore mieux que sur d'autres numéros, la volonté d'être accessible, de sortir du côté les profs parlent aux profs, avec le jargon de l'éducation nationale, où, pour ne pas vous cacher, nous on s'y perd aussi parfois, parce qu'ils changent les sigles régulièrement, histoire qu'on ne soit pas trop au clair. Et d'avoir cette capacité à faire que ça soit intéressant et intelligible et qu'on ne soit pas dans une revue universitaire avec des notes de bas de page, des concepts compliqués à raison de 4 par ligne, etc. etc.
Voilà, et puis on a essayé aussi de voir dans l'éducation toutes les dimensions du collectif, quoi. Ça pouvait être le collectif... Le collectif en lutte, le collectif de la classe, le collectif des associations pédagogiques, mais même des visions du collectif un peu, si vous voulez, originales, c'est de simplement voir, donc il y a un article dedans qui voit que, par exemple, les activités collectives, la plupart des activités collectives des élèves relèvent de l'interdit. Les élèves bâtissent le collectif quand ils bavardent, quand ils trichent. La triche est souvent de la coopération et du collectif, et un peu d'aller, on nous dit, il faut qu'ils coopèrent, tout ça, mais on leur interdit le plus souvent ces choses-là. Et donc, on est allé un peu chercher dans ces questions-là pour... Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, c'est ce que je voulais dire sur les différentes dimensions du collectif. Et c'est vrai que ce sur quoi on réfléchit aussi en termes de pratiques, c'est ces pratiques du collectif aussi en classe qui permettent la coopération entre les élèves. Donc souvent interdites, comme tu disais, mais c'est vrai qu'à l'école, on est dans une école quand même ultra individualiste, compétitive, où rien n'est fait pour que les élèves coopèrent malgré certains objectifs éventuellement affichés. Mais non, tout est fait pour que chacun bosse pour sa pomme et que ce soit la compétition de tous contre tous, quoi. Et donc nous aussi, dans ces pratiques pédagogiques, enfin, de toute façon, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, une pratique pédagogique, elle est en lien aussi avec un projet social et politique. Et donc nous, cette dimension collective, c'est aussi créer de la solidarité, créer de la coopération, et c'est en fait finalement très marginal à l'école, voire hors des clous. Donc c'est ça aussi qu'on réaffirme, quoi.
Et du coup, ces pratiques que vous essayez d'amener dans l'école, c'est celles que vous appliquez, vous, pour faire la revue, je suppose. Et là, personne ne répond.
Tu as raison. C'est-à-dire, on a même dû batailler avec la préfecture pour faire en sorte que, contrairement aux associations loi 1901 classique, on n'est pas un président, un trésorier, un secrétaire, mais qu'on ait une direction collégiale pour que ça soit dans le réel du fonctionnement déjà en place, mais que ça soit reconnu par l'institution ou l'administration. Et ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'il a fallu aller les enquiquiner un petit peu en ressortant les textes, en faisant un petit peu les syndicalistes en mode, attendez, la loi c'est ça. On aurait pu s'en passer, on aurait pu faire comme font plein de gens, ok, on met des noms, des prête-noms, et puis on fait ce qu'on veut. Ça nous semblait important quand même de le faire, parce que ça permet de l'affirmer encore plus derrière. Et pour être très clair, le fonctionnement de la revue, il est très simple. Il y a une liste de diffusion mail, très légère, à peu près 80 mails par jour dans les moments de rush. Très agréable à gérer. On est devenu expert en classement des mails maintenant. Et du coup, les textes partent, sont soumis à validation, donc c'est le comité de rédaction d'une revue normale. En fonction des dispos de chacun, il y a 3, 4, 5 retours, relecture, validation. Il y a des trucs qui sont plus ou moins hors charte, plus ou moins sujet à débat. Alors quand ça pose des débats, en général, on publie, on met en commentaire derrière sur le site. Et on arrive comme ça à un fonctionnement très, très coopératif, avec les limites de ce fonctionnement-là, parce qu'il y a pas de, il y a peu de rencontres physiques. Là, par exemple, on est trois, mais c'est vrai qu'on se voit une fois par an à l'occasion de stage ou quand on arrive à se déplacer. Mais il y a ce côté de distance géographique qui fait qu'on est obligé de passer par Internet pour créer ce collectif. Mais ça marche plutôt pas mal. Il y a peu de gens désinvestis. La limite du net fait qu'on pourrait se décourager, mais l'ambiance est tellement bonne que finalement tout le monde se remotive un petit peu, s'encourage quand il y a des coups de mou, et ça marche plutôt pas mal.
Oui, alors il y a une autre dimension du collectif, en dehors de la revue, c'est l'organisation des stages pédagogiques. Alors les stages pédagogiques qui sont collectifs à plusieurs niveaux, puisque là ça dépasse notre collectif à nous, puisque c'est toujours fait en coopération avec des syndicats et des mouvements pédagogiques. Des syndicats, bah forcément, puisque on n'est pas un syndicat, on ne peut pas faire un stage syndical. Et que aussi c'est des stages qui ne fonctionnent pas, ou en fait avec des organisateurs qui vont tout préparer et des gens qui viennent s'asseoir pour écouter les discours de ceux qui savent et qui se mettent comme en classe et voilà à expliquer comment il faut rendre une classe active en attendant le silence dans les rangs. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on a une ou deux interventions prévues. Et disons en plénière, des choses comme ça. Mais la plupart des interventions se font, c'est des ateliers qui sont proposés par les participants. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est commencé bien en amont. Ça commence des mois, deux, trois mois avant. On commence à envoyer à plein de gens une énorme mailing list, de leur dire que vous pouvez proposer des choses et on reçoit des propositions. Et en fait, les ateliers ne sont, c'est pas nous. Nous, on organise, on ne fait pas les ateliers ou des fois sur les. Sur les 20 qu'on fait, il y en a un ou deux qu'on fait, oui, bien sûr, mais en tant qu'individu, quoi, pas en tant que ces questions de classe qui vous parlent, quoi. Voilà, donc c'est aussi
une façon de faire du collectif.
Une façon de faire du collectif, voilà.
Ouais, enfin effectivement cette dimension de formation mutuelle et cette ouverture en fait même pour la revue ou le site, la publication est ouverte. On fait appel aussi à des gens qui sont pas forcément régulièrement dans le collectif Question de classe. On publie en fait en amont de chaque numéro un appel à contribution et on espère que les gens contribuent même s'ils sont pas impliqués dans le collectif régulièrement. Donc cette dimension de collective, elle dépasse voilà le strict cadre de l'association et des gens impliqués régulièrement.
Et on peut aussi avoir des démarches de soutien à ceux qui veulent écrire, puisqu'il y a des fois des gens qui ont pas vraiment, qui se sentent pas vraiment comme ça, et qui envoient des choses, et on les aide à reprendre et à sortir quelque chose vraiment, oui.
Donc effectivement, moi c'était vraiment ça ma question, c'est que c'est pas uniquement les profs qui parlent aux profs, c'est ce que tu disais avant. Donc est-ce que c'est aussi un peu un appel à plume que tu fais là, Alex ?
Oui, écrivez, voilà.
mais écrivez, mais où ?
Alors, allez sur le site de Question de classe et là, vous trouverez alors ces contacts. @questiondeclasse.org.
Grand moment de panique.
Là, j'avais pas révisé.
Vous savez quoi, Alex a raison. C'est contact@questiondeclasse.org.
Voilà. Ok. Et alors moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà des...
Attends, tu as une question de classe ou...
Oh, oui, évidemment. Non, mais si tu nous fais même de l'humour...
On est foutu.
Pardon. Pardon. Non, est-ce que vous avez déjà eu des articles, je sais pas comment on peut les appeler, mais on va appeler ça des articles, d'élèves, justement, parce que, alors c'est peut-être le mauvais élève qui parle au fond de moi là, mais parce que des fois on peut avoir l'impression que c'est justement, les élèves sont, on les intègre mais qu'à moitié, c'est-à-dire quand l'État fait une réforme, il fait une réforme mais pas vraiment avec le bien-être des élèves, ni pour eux, ni avec eux. Et que là, est-ce que justement dans votre collectif, il y a aussi cette idée que est-ce que une des élèves pourrait vous écrire et avoir justement un croisement un peu de regard des fois sur certaines pratiques ou qui pourraient peut-être eux-mêmes et elles-mêmes avoir des idées aussi. Enfin,
On défend le vieux truc du mouvement ouvrier du 19e siècle, c'est que l'émancipation des travailleurs et des dominés, du coup, sera l'œuvre des travailleurs et des dominés eux-mêmes. Les élèves étant les premiers concernés, évidemment, et ça serait même très intéressant, il faut même être honnête là-dessus, on en manque. C'est pas évident, forcément. Quand on est élève et qu'on a été lobotomisé pendant 10 ans de cursus scolaire par des méthodes traditionnelles qui empêchent ce genre de choses, on a intériorisé le fait qu'on n'a pas le droit, qu'on ne sait pas faire, que ça ne sera jamais assez bon, jamais assez bien. S'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir, on filera un coup de main pour reformuler, voir ce qu'on peut faire, même venir juste avec une idée, pas forcément un texte, et quelque chose qui peut se faire. Et ça serait même très intéressant qu'on arrive à en avoir plus. Et par ailleurs, quel que soit l'âge. Ça peut se faire avec des petits, même avec des petits qui ne savent pas écrire, la dictée à l'adulte, c'est quelque chose qu'on pratique dans les classes, qui peut se faire dans ce contexte-là aussi.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui. Non, je renforce ce que disait mon camarade. Oui, écrivez. Hein. Mais évidemment, voilà.
De toute façon, enfin, quand on a une revue comme la vôtre qui est donc finalement la plus ouverte possible, ou plus large possible.
Non, les gens du FN, on les accepte pas.
Ah, ben voilà, c'est là que je voulais en venir. Tu as vu venir ma petite.
C'était très subtil.
Petit coup de sabonnette comme ça. Non, mais évidemment, il y a une ligne politique quand même, malgré tout. Et vous la définiriez comment ? Et là, c'est la question piège du soir.
Question de définition. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous, la raison d'être de ce collectif, de cette revue, de tout le travail qu'on fait, c'est vraiment de lier la pédagogie et le politique et le social. C'est-à-dire que les techniques Freinet, c'est intéressant, mais si ça reste que de la technique, ça n'a pas de sens pour nous. Et là, je paraphrase Freinet qui disait on ne peut pas être conservateur dans sa classe en étant révolutionnaire en dehors, ou inversement, quoi, être un militant social, un innovateur pédagogique et puis conservateur socialement. Donc c'est vrai que nous, ce lien entre pédagogique et social, et entre révolution pédagogique et sociale, est importante, quoi. Donc nous, ce pour quoi on milite, ce sont pour des pédagogies émancipatrices, égalitaires, aux antipodes de l'école telle qu'elle est, qui est une école de la concurrence, une école fondée sur les besoins du néolibéralisme et de l'entreprise. Donc voilà, nous, notre ligne.
Sachant qu'il y a un truc supplémentaire, c'est qu'une part de la ligne, s'il faut la définir en un mot, c'est tout ce qui est émancipateur. Sachant que nous-mêmes, on a un certain nombre, par exemple, de militants anarchistes, ou quel que soit l'adjectif qu'on met derrière, militants et militantes, pardon, on prend en compte dans nos pratiques quotidiennes le fait qu'on a de toute manière le cul entre deux chaises. On se bat contre un truc, mais on est payé par, et c'est ça qui nous fait vivre. Et c'est pareil au niveau pédagogique. On ne peut pas être complètement émancipateur en termes de pédagogie, parce qu'il y a des gamins à qui ça ne conviendra pas et qu'on va mettre en difficulté. Donc il faut gérer et il faut doser systématiquement. C'est parfois assez inconfortable, mais c'est ça qui fait la richesse de la chose aussi. Et si, pour revenir sur du politique, on n'est pas loin de ce qu'il y a dans la charte d'Amiens, pour les gens qui maîtrisent un peu l'histoire du syndicalisme, le fait que, ok, on a une idée assez nette de quelle société on veut et de quelle on ne veut pas. Donc la révolution, c'est bien, mais dans le ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ça devienne émancipateur et que les gamins dans la merde, on va pas aller les bassiner avec des grandes théories, on va essayer de les aider au plus près.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'attend pas le grand soir en fait pour changer les choses et que c'est dès maintenant en fait, à l'instant maintenant, qu'on peut essayer de mettre des pratiques et que effectivement, enfin après, vous me dites si je me plante, mais que c'est compliqué de se dire on va révolutionner l'école dans un monde complètement réactionnaire en fait. C'est que c'est aussi, c'est pas qu'à l'école, parce que est-ce que là aussi on n'a pas foutu une grosse pression en fait sur les profs et tout cet ensemble-là de finalement être responsable de tout en fait tout le temps. C'est-à-dire quand ça va, c'est en fait ça va jamais. Mais c'est toujours en tout cas de la faute des profs. Quand même quoi. Donc je sais pas où je voulais vous emmener.
Mais t'y aller.
Ouais. Hein. Et je suis pas mal là, je rame un petit peu, mais.
Je pense qu'il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est la dimension, et ce qu'on essaye de faire, c'est une dimension de prise de conscience. Puisque moi, je dis que, si vous voulez, l'éducation, tout travail éducatif est un travail politique. C'est toujours politique, l'éducation, par contre, ce n'est pas toujours conscient.
Et c'est pas puisque c'est inconscient que ce n'est pas politique. Et d'où l'importance de travailler une prise de conscience. Et c'est ça aussi qu'on fait, et c'est la dimension, par exemple, c'est toute la dimension critique de notre travail. Cette dimension critique, c'est de dire aux gens qui peuvent penser, ben voilà, j'enseigne ça puisque c'est le programme, je fais ça puisque mes profs d'avant le faisaient, leur dire attention. Là, tu fais de la politique. Là, tu sers un projet, tu prépares une société, tu le sais pas, ben, regarde, on essaye de te le montrer, voilà. C'est une part importante de notre travail. Oui.
Ah, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ou plus tard ?
Ben, on allait faire une petite coupure, oui, mais comme
si c'est dans le thème, vas-y. Non, mais si c'est... Ouais, bah,
effectivement, sur le lien école-société, donc effectivement, c'est vrai que l'école contribue à faire changer ou à maintenir la société telle qu'elle est, comme tu le dis, mais c'est vrai que des fois, on lui en met un petit peu lourd sur la patate à l'école, parce que c'est quand même pas elle qui fait tout, mais bien sûr, voilà, changer l'école, c'est vouloir changer la société, mais effectivement, la société aussi, l'école, est aussi le produit de la société dans laquelle elle est, et donc c'est aussi pourquoi l'école aujourd'hui est aussi inégalitaire, parce qu'elle est le produit de cette société inégalitaire, et que nous, d'essayer de mener des pratiques différentes, émancipatrices, plus égalitaires, c'est pas facile, parce que l'école est fondamentalement inégalitaire. Et donc, c'est vrai que tu disais, on a des fois le cul entre deux chaises, des fois on est un peu comme schizophrène, parce que des fois on... Bon, puis moi, j'enseigne par exemple en terminale, donc des fois je suis très coincée par le cadre dans lequel je suis. Mais bon, c'est vrai, je suis d'accord, quoi. L'école peut pas tout, mais il faut quand même agir.
Mais aussi.
Et juste, je fais court, elle était intéressante ta question tout à l'heure, parce que tu parlais des profs. Est-ce qu'on n'en met pas trop sur la tête des profs ? C'est pas sur la tête des profs, c'est sur la tête de l'institution. Parce que les profs, en fait, ils en souffrent aussi. Je parlais du cul entre deux chaises. Nous, entre guillemets, à force de prendre des coups dans la tronche, c'est parce qu'on a la culture politique, on sait à peu près où on va, et on sait à peu près quelle chose trappe éviter. Par exemple, je pense qu'autour de la table, il n'y a pas grand monde qui a grand chose à attendre de l'institution et qui est déçu quand un inspecteur se comporte de manière bizarre. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a pas mal de collègues qui sont encore très confiants dans la méritocratie, dans les valeurs de la République, ce genre de discours. On l'entend tous les jours. On doit gérer dans les travaux en équipe qu'on fait avec nos collègues ce genre de choses. Mais les profs, globalement, ils en chient autant que les élèves. Ils en ont pas forcément conscience, comme disait le collègue, mais c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à cet angle pédago et syndical. À un moment donné, il faut aussi que les travailleurs et travailleuses y puissent prendre conscience de ça et s'émanciper. Enfin, on y revient, je refais pas la formule, mais... il faut différencier le système et le côté politique et les individus. C'est vraiment différent.
Allez, cette fois on y va, on coupe un peu et on revient juste après.
Qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces. Qui salissaient ton sang quand d'obéir au doigt et à l'œil. Qui n'avait que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges et que je finirais morte dans un coin de rue où j'iserais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer. Ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés et connards. Tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer. L'exemple en facile que les lois haïssaient. Pointer du doigt et qui depuis ses 12 piges n'est plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles. Que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté. Mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais. Directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle et j'ai pas oublié. T'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus. Moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Quand tu lui disais que mon cas était irrattrapable et que rejoindre le droit chemin, j'en étais bien incapable. C'était, on ne peut plus sauver cette sauvage, madame Foutifère. Mais qu'est-ce qu'il a cru? Qui allait me sauver, toi ou ton Lucifer? Qu'est-ce que tu croyais? Connaître les mots, ma base de dressage. Mais toutes vos institutions mènent à la perte. Tu captes le message, alors si tu crois toujours pour gagner l'obéissance, c'est par la force que ça se passe et que t'es toujours aussi insensé. Et connard, pour nous faire s'agir, c'était quoi tes méthodes? Ah ouais, troquer les mômes en gonflant leur tête de médoc. Et connard, trop facile de faire couper des neuroleptiques à des petits saignes devenus légumes par caca. Chimique. Et connard, à tes yeux on était quoi tous? Juste de la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse. Avec fourberie, deuxièmement, chair de revanche. Tu peux toujours prier ton diable, qu'aucun d'entre nous se venge. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais. Directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour l'éduc ne devait me laisser une seconde sans surveillance. De peur que je parte, qu'est-ce qu'il y a? Croyais que j'allais me laisser mourir dans ton enclos ou attendre que quelqu'un vienne me secourir? Non mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on soigne un feu avec l'alcool, marcher à la baguette. Moi je t'en foutrais des piqûres d'alcool car j'avais pas le droit. Et ça tu le sais très bien d'ailleurs, je pourrais traîner devant tes tribunaux des pratiques de tirailleurs. Mais pensez pas, non mes principes là, retournera pour toi aussi. Et tu te rappelleras ce jour-là de moi et des autres petits indociles. Car y'a une justice là-haut plus juste que votre système. Et on finit toujours par payer les effets des causes qu'on sème. Et connard, j'ai connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, c'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou les sports des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle. Et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste, quand toi tu dis qu'il y en a plus. J'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'approuve. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants, et laisse-moi rigoler.
Je regrette pas d'avoir jamais écouté.
Connard, 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 dis-moi, tu te reconnais.
Je regrette pas d'avoir jamais écouté.
Et connard, c'est à toi.
Non pas et connard, mais et c'est la causerie, 22-23 dimanche, comme tous les dimanches, sur Radio Canu. Et donc c'était Keniaka Arcana, je vais pas y arriver ce soir, avec et connard, parce qu'on reçoit le collectif Question de Classe. Cette phrase est bizarre, j'en ai conscience, oui. Mais c'est vous qui avez choisi les titres, alors vous débrouillez avec ça. Et... Donc Jean-Yves, tu voulais relancer...
Ouais, relancer un peu autour de justement alors, l'école, et l'éducation ou la pédagogie ou apprendre des choses, c'est hautement politique. Et l'école est un terrain aussi où les réactionnaires, et n'hésitons pas à dire même les fascistes, n'hésitent pas à y aller, alors sous différentes manières. Hein. Il y a eu les jours de retrait, il y a eu la lutte là aussi contre l'ABCD de l'égalité, parce que ça fait peur quand même, une société où les gens seraient égaux. Et il y a aussi des écoles en fait qui finalement ont peuvent avoir l'apparence d'écoles progressistes, mais qui finalement n'en sont pas. Alors je sais pas un peu si ça vous évoque des choses, mais on peut peut-être en causer un petit peu, quoi.
Je crois que c'est toi, ouais.
Ouais, c'est moi. Alors non, j'essaie de pas monopoliser la parole non plus. Même si je raconte des trucs évidemment très intéressants. Modestement, tout ça. Oui, c'est quelque chose auquel on tient. C'est vrai qu'on a pas, il y a beaucoup de choses à dire. On est très attaché au fait de travailler dans l'école publique. C'est pas juste pour le plaisir de se faire du mal, comme on disait tout à l'heure. C'est aussi qu'on considère que l'école est un service public, voire un bien public, que ça nous appartient, nous, alors peut-être pas dire le peuple, mais les gens en tout cas, et que c'est pas juste pour le plaisir de... Comment dire ça ? De faire du verbiage militant. C'est aussi parce que, contrairement au secteur privé, que ça soit le secteur privé sous contrat, donc les écoles catho, en gros, et les secteurs privés hors contrat, l'école publique a le devoir et l'obligation, et c'est très bien comme ça, d'accueillir tous les gamins, même s'ils sont handicapés, même s'ils sont chiants, même si... toutes les raisons qu'on peut trouver, ce qui n'est pas le cas dans les écoles privées. Dans les écoles privées, je parle de mon vécu perso, parce que mon gamin a été dans une école privée à un moment donné, discours de la directrice, qui par ailleurs utilisait des pédagogies tout à fait alternatives, nouvelles, sympathiques sur le papier, c'était quand même de dire que ben non, ce gamin, vraiment, il est pénible pour garder l'équilibre de l'environnement scolaire. On va peut-être être obligé, si vous ne faites pas un effort, chers parents, de l'exclure. Voilà, alors j'avoue que ça picote un petit peu, mais enfin pour répondre à ta question plus généralement, parce qu'au-delà de l'anecdote, c'est quelque chose qui est plus large et qui fait système, on a un mouvement actuel, alors j'avais promis de retrouver les chiffres et j'ai pas eu le temps, mais de sortie du secteur public, qui est... absolument pas surprenant parce que on a des textes clairs là-dessus. Toute la phase sarkozyste, toutes les attaques contre l'école publique étaient en partie pour faire baisser le pourcentage d'élèves scolarisés dans le public, pour favoriser le privé, pour des raisons économiques, pas uniquement, mais aussi pour des raisons économiques. Et donc on a une augmentation grande des gens, de gamins qui sortent du secteur public, qui vont soit faire du homeschooling, donc l'école à la maison. C'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Pas sûr que ça dure, mais en tout cas pour l'instant ça marche pas mal, notamment chez des parents qui ont l'impression que leur angoisse l'angoisse de la chair de leur chair qui est à l'école, on ne sait pas ce qui y passe, mon Dieu, il y a une dispute entre gamins, c'est vrai que ça n'arrive jamais ça. Et du coup, qui font des choix radicaux comme ça, y compris, et ça les engage énormément, c'est quelque chose de complexe à gérer l'école à la maison. Et par ailleurs, on a, comme disait Alex tout à l'heure, une offensive des réactionnaires et de l'extrême droite qui s'emparent de ces thématiques-là. Mmh. Et c'est une des découvertes du bouquin de Grégory dont on a parlé tout à l'heure sur les réacs publicains, c'est qu'on a une forme d'alliance entre un certain nombre de gens qui viennent plutôt du milieu économique, grands capitalistes, des fondations qui se financent via la défiscalisation des dons, ce genre de choses, et des gens qui viennent plutôt d'un milieu catho-intégriste, ambiance manif pour tous, ce genre de choses, qui ont tendance à bosser ensemble. On a l'exemple de Greg parlant, mais c'est pas les seuls, et on n'a pas forcément un point de vue sur tout ce qui se passe en France, parce que c'est très grand l'éducation comme milieu. On a la fondation Espérance Banlieue. Je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler, peut-être chez les auditeurs, mais ça n'a pas encore franchi le mur médiatique comme il faut. La fondation Espérance Banlieue, c'est une fondation aidée par l'État. Si vous allez sur la partie donateur, on s'adresse aux gens qui payent l'ISF, globalement, donc l'impôt sur la solidarité sur la fortune. Je pense qu'une personne ici sera concernée. Et ces gens-là créent des écoles. Ex nihilo. En banlieue, volontairement, avec un discours très méritocratique, on va extraire de la banlieue le bon grain de livret. Mauvais, ceux qui ne veulent pas vraiment jouer le jeu, on les laisse dans leur merde, tout ça. Et ça va loin, dans le sens où ils en créent vite, ils ont des moyens, et ils ont créé une école de profs. Qui a démarré le plan de formation de ces bébés profs, avec beaucoup de guillemets, j'espère pas être humiliant, c'est pas le but, mais c'est le mot qu'on utilise entre nous, est très quasi militaire. C'est vraiment, c'est tac tac, ça va être comme ça, les pédagogies alternatives, la recherche personnelle en tant qu'enseignant pour s'améliorer tout au long de sa carrière, c'est un truc, c'est hors du radar complètement. Et on retrouve, quand on regarde les têtes, c'est le boulot qu'a fait Greg dans son bouquin, un certain nombre de gens qui sont explicitement à l'extrême droite, qui sont en lien avec un certain nombre de revues, alors j'ai plus tout le détail, mais de différentes chapelles de l'extrême droite. Et c'est très inquiétant parce que, indépendamment des gamins qui sont confiés déjà maintenant, on sait que si, comme pour l'instant en tout cas la tendance a l'air de mener vers ça, si on arrive à une alternance politique vers la droite, quelle que soit sa couleur, il est à peu près certain qu'ils s'appuieront là-dessus pour étendre ça un maximum. C'est la prolongation de ce qui avait été fait avec les internats d'excellence sous Sarkozy, par exemple, où le but, encore une fois, c'était d'extraire les meilleurs de la banlieue, et puis, encore une fois, les autres, on les laisse de côté. Il y aurait encore beaucoup à dire, peut-être que je vais arrêter là-dessus, mais c'est quelque chose qui gagne à être connu, parce que c'est vraiment inquiétant.
Oui, je pense qu'actuellement, l'école publique est confrontée à deux menaces qui sont d'un côté une menace, disons, de caractère libéral, et menace de caractère libéral qui a une vision très instrumentaliste de l'école, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est tout ce qu'il va nous dire, voilà, il faut préparer les travailleurs de demain. Donc, par exemple, régionaliser, puisqu'on sait bien que par exemple dans telle région on n'a plus besoin de chimistes et de caristes ici et de ceci là et d'essayer de faire coller à cette offre du travail et tout ça et de faire coller disons aux besoins des patrons quoi et l'autre menace qui est donc cette menace réactionnaire et quelque part dans ces écoles on peut dire qu'une partie de ces écoles qui font de la pédagogie alternative appartiennent à cette logique libérale. Ils appartiennent à cette logique libérale, mais pour les riches. C'est-à-dire, pour les pauvres, on va leur chercher des métiers. Pour les riches, les familles qui peuvent payer, comme ça existe dans certaines écoles Montessori, qui vont payer 700, 800 euros par mois, tout ça, sont des familles qui sont suffisamment bien placées dans la société pour se dire « Mon enfant, il faut qu'il développe un sentiment artistique, et ceci, cela, on ne s'inquiète pas du tout du travail de l'enfant, comme ça. » Et donc, quelque part, ça fait partie de cet éclatement aussi de la société où on prépare chacun à sa place et voilà, et on prépare, voilà, si on n'a pas du tout de conscience politique, ben voilà, on va préparer les enfants comme ça a été fait avant, comme ça se faisait, de les préparer à faire du cheval, du golf, voilà, les modes ont changé, mais on reste un peu dans cette logique-là.
Et effectivement, hein, le privé se développe énormément là, ces dernières années sur la dégradation du service public d'éducation. C'est sûr que depuis Sarkozy, l'école, elle a été gravement attaquée. Et quand on voit là les effectifs qui explosent dans les classes, ou par exemple, bon, on interdit le redoublement, très bien, mais rien n'est prévu. Donc les élèves qui passent, bah, ils s'entassent dans les classes. Donc l'école publique se dégrade de plus en plus. Donc les gens qui ont les moyens fuient l'école publique. Et sans effectivement dire que forcément toutes les écoles privées vont être proches de l'extrême droite, etc. Mais des gens qui vont aspirer à mettre leurs enfants dans des écoles là, Montessori, on parle beaucoup cette pédagogie Montessori, qui sont effectivement des pédagogies, comment dire, qui permettent davantage l'épanouissement individuel, etc. Mais qui déconnectent, encore une fois, la technique pédagogique du projet de société. Montessori, c'est pas un projet émancipateur socialement. Montessori, elle était pote avec les fascistes, elle s'est accommodée de Mussolini, c'était quelqu'un qui n'avait rien contre la discipline. Alors je dis pas que ces méthodes pédagogiques sont pas intéressantes, mais c'est ça qui est intéressant, qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leurs enfants dans des écoles Montessori qui sont absolument pas des réactionnaires, au contraire, qui sont plutôt des gens progressistes, qui sont effectivement pour ce développement, qui sont contre des méthodes autoritaires ou élitiste de l'école traditionnelle, mais c'est important de reconnecter la pédagogie et le politique. Et le privé se développe sur la dégradation à grande vitesse du public.
Il faut rajouter un aspect aussi qui n'est pas encore assez documenté, mais qu'on voit évoluer pas mal. C'est les écoles dont parlait Alex, elle a raison de le préciser, c'est pas que des fachos qui mettent leurs gamins là-dedans, et les profs qui sont dedans n'enseignent pas de manière fasciste, hein, c'est pas du tout ça, c'est le sens global. Mais il y a une connexion entre ces écoles-là avec tout le mouvement centré autour du bien-être, de la bienveillance,
le développement personnel.
Voilà, tout ce qui est développement personnel. Le problème, c'est que cette mouvance-là, ce réseau, je sais pas comment il faut appeler ça, est très perméable à un certain nombre d'influences sectaires. Oui. Je parle notamment de tout ce qui relève de la pédagogie des écoles Steiner-Waldorf. L'avatar le plus connu médiatiquement en France, c'est les écoles qui sont autour de Pierre Rabhi et de ses enfants. Oui. C'est pas les seuls. Pour vous situer, Steiner, donc, qui est un philosophe de l'éducation, entre autres, est le fondateur de l'anthroposophie. Et il y a un certain nombre de documents qui existent, notamment au niveau de la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance sur les sexes, signale non seulement des dérives sectaires, voire on est plus que dans des dérives, on est dedans, mais une volonté assumée de cacher ça, de faire en sorte que quand les gamins rentrent dans l'école, quand le projet pédagogique est montré, les aspects les plus bizarres, tordus, un peu fumeux, soient mis de côté, en sachant que ça change absolument rien au projet. Le projet anthroposophe, il est clair, c'est de former des futurs anthroposophes. Et là où on va loin, c'est qu'on voit des connexions, on disait tout à l'heure, avec les grands capitalistes, les écoles Steiner-Waldorf. C'est dans ce modèle d'école, dont on a pas mal entendu parler, que sont scolarisés les enfants des grands bourgeois de la Silicon Valley. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc ces gens-là qui nous vendent des écrans, des machins pour choper nos données personnelles avec Facebook et compagnie, sont dans des écoles sans écran, où on va utiliser son corps, ses doigts, sa créativité, machin. Et ils se retrouvent dans ce genre de choses. Et encore une fois, le lien, il ne s'agit pas de dire que c'est un projet politique avec des méchants complotistes qui traînent et qui regardent le monde d'en haut en se frottant les mains. Mais on est dans des conjonctions d'intérêts qui ne demandent qu'à se développer. Et le problème, c'est que ce sont des gens puissants. Puissants politiquement, qui ont de l'argent, qui ont du temps, qui ont des gens à leur service pour le faire. Et on est confronté à toutes ces menaces-là. Et voilà, nous, ce qu'on essaie de porter, c'est attention, les adversaires, ils sont nombreux et ils sont multiformes et ils ont tendance à faire des choses entre eux.
Et bien, je vais juste terminer peut-être que je crois que c'est le prochain numéro, c'est le numéro 5 qui sera autour des fascismes, en tout cas des réactionnaires, ou c'est le numéro avant ? De questions de classe.
Alors, il y a deux choses. Le prochain numéro, le numéro 5 qui sortira cet hiver, s'appellera Extrême droite contre éducation et éducation contre extrême droite. On n'est pas dépourvu d'outils et on n'est pas dépourvu d'énergie pour y poster. Il faut s'y mettre, par contre.
Non, c'était juste pour, voilà, il y a la continuité, vous aurez toute la possibilité de poursuivre ces réflexions dans les prochains numéros aussi. On passe à de la ZIC ? Allez. Ah, pardon, c'est bon, Clara? Why haven't you learned anything? An exclusive joke. The same people who control the school system control the prison system and the whole social system ever since slavery.
Some redneck crackers. Right around the time third base dropped the Cactus album, but I was Reed Malcolm. I changed my name in 89, cleaning parts of my brain like a baby nine. I took a history class serious, front row every day of the week, third period, fucking with the teacher's head, calling them racist. I try to show them crackers some light, they couldn't face it. I got my diploma from a school called Rickers, full of teenage mothers and drug dealing niggas in the hallways. The popo was always present, searching through niggas' possessions, looking for dope and weapons, get your lessons. That's what my moms kept stressing. I tried to pay attention, but they classes weren't interesting. They seemed to only glorify the Europeans, claiming Africans were only three-fifths of human beings. They schools can't teach us shit. My people need freedom, we trying to get all we could get. All my high school teachers could suck my dick, telling me white man lies, straight bullshit.
That brainwash camp, they make you think if you drop out, you ain't got a chance to advance in life. They try to make you pull your pants up. Students fight the teachers and get took away in handcuffs. And if that wasn't enough, then they expel you. All your people's understanding, but to them, you a failure. Observation and participation, my favorite teachers, when they beat us in the head with them books, it don't reach us. Whether you break dance or rock, sway to Adidas, or be in the bathroom with your clique, smoking reefer, then you know they mad. Class ain't important unless you add enough cash and multiples. Unemployment ain't rewarding. They may as well teach us extortion. You either get paid or locked up. The principal is like a warden in a 4-year sentence. Mad niggas never finish, but that doesn't mean I couldn't be a doctor or a dentist.
They schools can't teach us shit. My people need freedom, we trying to get all we can get. All my high school teachers could suck my dick, telling me white man lies, straight bullshit. They schools can't teach us shit. My people need freedom, we trying to get all we can get. All my high school teachers could suck my dick, telling me white man lies, straight bullshit. Bullshit.
Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu. Il est 22h57 et on va super vite. Et là, on vient de s'écouter. Non, on va se calmer quand même un petit peu. Là, on vient de s'écouter They Schools de Dead Prez. Voilà. Fab, je te laisse.
Ouais, donc ce soir, on recevait le collectif Questions de classe et qui édite une revue. Donc, bah, comme c'est les cinq dernières minutes, on va faire un peu de retap parce que ça sert à ça, les cinq dernières minutes. Alors, la revue, on la trouve évidemment de partout, dans tous les kiosques, non ?
Non, on la trouve dans les meilleures librairies.
Ah, c'est ça. Alors, par voilà. exemple ?
Par exemple, La Plume Noire à Lyon, Quilombo ou Publico à Paris, et dans toutes les meilleures librairies. Je ne les connais pas toutes. Voilà, il y a quelques librairies qui reçoivent. Sinon, vous pouvez vous abonner. C'est un abonnement pour 5 numéros. Il y a environ 3 numéros qui sortent par an. Donc, on peut s'abonner en allant sur le site de Questions de classe, www.questionsdeclasse, donc au pluriel.org. Donc là, vous pouvez vous abonner directement en ligne, un paiement par PayPal, ou vous pouvez envoyer votre petit bulletin d'abonnement à, je dis l'adresse, ou il la oui, retrouve sur le site,
bon, vas-y,
à Question de classe au CICP. Zut.
Bah, dis-la si tu la connais, quoi.
Ouais, 21 Terre, rue Voltaire, 75-011, Paris. Enfin, vous retrouvez toutes les informations sur le site Question de classe. Voilà. Donc, on peut acheter la revue au numéro, s'abonner, avoir la version PDF ou la trouver dans les meilleures librairies.
Bah, c'est bien tout ça.
Et je voulais rajouter que bah, les liens, enfin, on en a déjà mis maintenant sur le blog de la causerie, mais on les laissera en tout cas sur la causerie, sur le blog, comme ça bah, celles et ceux qui écoutent et que vous n'avez pas toutes les infos, vous allez juste sur le blog et vous retrouverez toutes ces infos-là aussi. Voilà.
Et est-ce que donc il y a des appels à plumes ? Est-ce que vous savez sur quel thème les gens pourraient commencer à réfléchir, là ou pas du tout ? Mais vous n'avez peut-être pas encore commencé, vous, à réfléchir au prochain thème.
Eh ben non.
Eh ben voilà, moi ça c'est clair.
Non, il ben, y a un thème qui est envisagé, mais qui n'est pas encore fixé.
Peut-être pas complètement validé par le collectif.
Peut-être pas complètement validé.
Non, c'est pas grave.
Non,
mais c'est pas grave.
Comme ça, c'est un mystère. Hein. Venez sur le site et vous verrez bientôt l'appel à contribution.
C'est ce que j'allais dire, ça fait un teaser pour aller voir le site et tout. Eh ben en tout cas, merci d'être venu, parce que c'était bien. J'espère que vous n'avez pas dit tout ce que vous vouliez dire, je suis sûr. Non.
Non, mais il vaut mieux parce que deux jours à parler de ça, ça peut être un peu long pour les auditeurs.
Nous, on va faire une toute petite parenthèse pour l'agenda de la semaine.
Donc, c'est ça.
Et c'est toi qui as toutes les infos. Donc
c'est bien ce que je me disais. Alors déjà, rendez-vous le mardi 20 septembre. Donc c'est pour le procès de Sophie Perrin face à l'université.
Lyon
2, c'est ça. C'est du soutien qu'il faut lui apporter. Donc ça sera au TGI, c'est 67 rue Servian dans le 3e. Et c'est donc mardi 20 à 13h30. Next, c'est la fête des récoltes.
Oui.
On va sacrifier Britney Spears. C'est ça c'est dans South Park. En tout cas, c'est un collectif de plein d'assauts autour de la nourriture, de comment on bouffe dans des circuits courts, etc., etc. Ça se passe donc samedi 24, je vous l'ai dit, de 13h à 21h. C'est sur les berges du Rhône, entre les ponts Wilson et Guillotière. Donc vous pouvez rencontrer pas mal d'assauts. Et puis de discuter autour de tout ça, quoi, entre la bouffe et c'est aussi très politique le manger. Et je terminerai par un dernier rendez-vous, c'est le pot de rentrée du forum gay et lesbien. Ça se passera au centre LGBTI qui se trouve toujours 19 rue des Capucins dans le premier.
Juste à côté de la radio.
C'est ça. Et c'est de 18h30 à 22h. Et si je ne me trompe pas, c'est samedi aussi.
Oui, c'est
le 24.
C'est le 24.
C'est ça. Je crois que vous avez toutes les informations.
Non, il en manquait une qu'on donne chaque semaine. C'est donc pour le soutien aux sans-papiers et à leurs proches. Il y a toujours les permanences qui se tiennent à la Lutine tous les lundis soirs à 18h30. La Lutine 91 rue Montesquieu dans le 7e. Et sinon aussi, il y a la l'UDCGT qui relance ses permanences pour les sans-papiers aussi. Et je crois que la CNT va le faire aussi, mais je n'ai pas les dates encore. Voilà.
Bah voilà, si au cas où il y a des CNTistes et voilà. Des CGTistes et des... Enfin,
envoyez
vos infos, ça sera toujours plus
ça
sûr.
Donc
c'est voilà. Ça. Et puis bah, nous, si là, on peut peut-être annoncer, non, c'est pas encore sûr, mais vous devrez retrouver normalement une émission astronomique.
Ah oui, qui ne sera pas la semaine prochaine, ouais. Coup, contrairement à ce que ça devait être.
C'est ça.
Mais qui serait autour du 8 ou 9 octobre.
C'est ça.
Et puis saluer aussi la nouvelle émission qui est arrivée sur Radio Canu à midi le dimanche et qui s'appelle Blabla Mix, autour faite par et pour les réfugiés.
C'est ça.
Voilà.
Voilà. On remercie encore les membres du collectif Questions de classe.
Un dernier mot avant de partir. Un mot, hein.
Choups. Tuyère.
J'allais dire merci, mais ça fait trop sérieux.
Non, mais tu peux.
T'as le droit.
T'as le droit.
À bientôt, je pense qu'on le refera.
Ouais, ouais, ça c'est bien. Ouais. Non, c'est oui. Beau.
Bah oui, à bientôt.
Ah bah allez, c'est noté.
Bah oui, on se souhaite une bonne nuit. On se dit, qu'est-ce qu'on... On se quitte avec quoi, Clara, tiens.
J'en parle le micro. On se quitte avec La Canaille et le titre Briller dans le noir.
C'est ça.
Allez, bonne semaine à toutes et à tous.
Bonne semaine, bonne nuit et bon courage à toutes et à tous. Ciao.
Rentrez
ciao.
Bien des questions de classe. Salut.
Salut.
By the system, but they will never prevent us from shining in the dark.
C'est quoi? Hors de question, raser les murs, je veux les briser. Chez moi l'ambiance est bien trop morne, je suis venu d'électriser. Habité d'une soif de vivre que personne ne monnaie. Y'a dans mon camp des pépites d'or à faire pâlir le soleil. À trop couper les chines, à couper pleine de rage. Et le schéma se reproduit quand le moufle les prenne de l'âge. Alors, comprends qu'ici la soif de revanche est maladive. Parce que je viens d'un monde où y'a pas d'autre alternative.
Them say nothing good will never come from us. For me born in a the ghetto, them say we dangerous. Never wanna take me serious, it'll make them hilarious. To say we struggle to reach the top, hoping we make a flop. But them will never kill the hope, cause we still a stand like warriors of light. Avec l'insoumission de rigueur et la bonne vieille parole profane. Aspiration verticale, j'ai l'intention de me redresser. Direct, c'est l'agression frontale pour qui voudrait me rabaisser. Y'a qu'une façon de s'en sortir et tu peux me croire. L'époque est sombre, on est réduit à devoir briller dans le noir.
Hey, now that I'm seeing the light, Babylon can't blur my sight. I know I got this fire inside in a low or high tide. Babylon could have never spoiled the ride. I'm the captain of my ship, giving the Lord my soul to keep. I giggle and I laugh to hear them whip. But they thought we would never make it, but now we passed through. And we're sitting on the throne, and guess who's laughing? We still stand alive, warriors of light.
Au rendez-vous.
Your future lies within your hands, don't let them control you.
Hommage aux fils de rien, ceux qui résistent et rendent les coups.
Every man deserves his share, so take what is for you.
J'ai dit l'espoir est dans la lutte, je réponds présent au rendez-vous.
Your future lies within your hands, don't let them control you.
Hommage aux fils de rien, ceux qui résistent et rendent les coups.
Every man deserves his share, so take what is for you. Born in a ghetto, raised in a tower.
Dans le noir.
We got to shine, 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 shine.
Oui, on doit briller, briller, briller dans le noir.
We got to shine, 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 shine in the dark.